Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous, chers
auditrices,
chers auditeurs, chers chroniqueurs. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Ça dit quoi ? Alors, au micro, moi-même, Sophia, qui vais animer le Before pour ce soir. Très, très honorée et très heureuse de me lancer dans cet exercice ce soir avec vous.
C'est la première fois ?
Ouais !
Ok, bravo !
C'est ça, Rose !
C'est ma première, c'est ma prems. Voilà, et bon, évidemment, vous savez, vous retrouverez Loïc parmi nous pour mener de main de maître la deuxième partie de l'émission à partir de 19h30.
Okay.
Et pour m'accompagner, vous avez déjà entendu la charmante voix de Léo, tout d'abord.
Bonsoir, bonsoir, comment ça va les amis?
Ça va.
Ça va, et toi, est-ce que ça va?
Bah ça va, mais je me sens un peu loin de vous là.
Ouais. Il est dans sa cabine.
Voilà, je vous vois de
loin. Dans sa cage, dans l'aquarium.
Faut bien que tu bosses quand même.
Bon, t'es près du cœur, loin de nous, mais près du cœur. Et donc vous avez entendu aussi la voix de Catherine qui est avec nous ce soir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Comment vas-tu?
Très bien, très bien. Voilà.
Catherine du Meurigal, ça va toujours bien.
Oui, bah oui, c'est
et
comme ça.
Nous avons aussi Cosette.
Ça va?
Coco, toujours là.
J'ai envie de tousser. Oh.
Du coup, on ne demande pas si ça va.
Si, si, ça va.
Ça va, juste un petit peu prise et cette toux qui ne veut pas passer.
Ouais, surtout quand je suis dans ce studio.
Dans ce studio.
Il doit y avoir de la poussière ou un truc...
Bon, pourtant, il y a des bonnes ondes, je trouve, moi, dans ce studio.
En général, ouais, mais c'est pas les ondes qui gratouillent la gorge.
Ouais, elle n'a pas celle-là. Dommage. Alors, ce soir, ce que je vous propose pour au menu de ce Before, comme le 8 mars pointe le bout de son nez à la fin de la semaine, une petite thématique sur le combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est dépassé ou pas?
Génial.
J'ai un petit quiz pour vous. Je vais tester vos connaissances.
Alors, il faut savoir que le 8 mars, c'est aussi mon anniversaire.
Voilà. Oh.
Je suis né le 8 mars. Un grand chanceux d'être né ce jour de fête.
De fou, il y a plein de femmes qui sortent dans les rues pour fêter ton anniversaire.
Ouais, j'ai grandi en Allemagne. Et en Allemagne, le 8 mars, pas en Allemagne, juste dans le Land de Berlin, le 8 mars est férié. On ne va pas au travail.
Mais énorme.
Ah, c'est trop bien. Ça veut dire que... Et même où j'étais au collège, lycée, chaque fois, mon anniversaire, c'était férié. Je pouvais aller faire la fête.
Donc, top.
Merci. Merci à ce jour béni.
Merci pour le combat des femmes. Et l'anniversaire de Léo. Et puis aussi, il y a les cérémonies des Oscars et des Césars qui viennent de passer. Et donc, je vous propose de nous dire un petit peu vos coups de cœur et vos coups de gueule sur les récompenses. Moi, j'ai ma petite idée. Et si jamais vous n'avez pas d'idée, ça vous est passé totalement au-dessus de la tête, vous nous direz quel film vous avez particulièrement apprécié cette année. Ça sera votre César à vous.
Okay.
Moi, les Césars et toutes ces récompenses à la noix, je m'en tamponne. C'est d'un nul. Mais d'un
moi, j'ai
nul.
Une idée là-dessus aussi.
Donc, on aura le coup de gueule général de Coco sur le fait qu'il y ait des cérémonies qui soient remises. Ouais. Et on n'oublie pas, évidemment, on terminera avec les...
Blabla.
Blabla, blabla. Allez, c'est parti. On embraye direct avec le quiz, ça vous va?
Ouais, moi, ça me va.
Allez, si vous êtes chaud. Moi,
chaud.
Je suis méga chaud patate. Première question. À quel niveau... Alors, j'ai plusieurs réponses à vous proposer. Hein. Je ne suis pas trop vache non plus. À quel niveau s'élève l'écart salarial moyen entre les hommes et les femmes en France? Est-ce qu'il est de 8%, 15% ou 28%?
Moi, j'aurais dit 28%.
Oui.
Il est encore très, très élevé.
Oui, moi je pensais 20%. Donc,
Moi, je pensais à 25%. Donc, ouais. 28%, c'est bon.
Ouais, je pense qu'on est dans le...
C'était quoi, 8?
8, 15 ou 28?
J'irais 15 ou 8, parce que 28, je trouve ça...
Tu trouves ça énorme?
Enfin, c'est énorme.
C'est scandaleux, hein? Eh bien, la bonne réponse, c'est 28.
C'est 28.
Wow. N'oublie pas qu'on est en France.
Ah oui, non, ouais. C'est fou.
Il y a une enquête de l'INSEE de 2017. Bon, ça date un petit peu, mais je pense
mais
pas que
c'est toujours pareil. Hein.
Voilà, c'est d'actualité.
Excuse-moi. Cette enquête vise quel métier ?
Alors, je précise, elle pointe un écart de 28,5% en comparant les revenus salariaux nets des hommes et des femmes, quel que soit le temps de travail. Et donc, c'est tout métier confondu.
Voilà, c'est global.
Et du coup, ça veut dire que ce qu'il y a derrière, c'est que ça prend le temps de travail en compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi une inégalité qui se joue par rapport au temps partiel imposé.
Ok.
Voilà. Donc, deux bonnes réponses et une...
Faites par des femmes.
Zéro. Deuxième question.
Bien vu.
Plus les emplois sont qualifiés, plus l'écart de salaire entre femmes et hommes se réduit. Vrai ou faux ?
Faux. C'est l'inverse.
Moi, j'aurais tendance à dire vrai. Il se réduit.
Donc, si on a un salaire élevé...
Une fonction.
Une fonction élevée.
Oui. Je pense que
du
ça...
Coup,
non, parce qu'il y a les
salaires des femmes rejoignent ceux des
hommes. Ah non, je ne dis pas qu'ils rejoignent. L'écart se réduit, mais il y a toujours un écart. Il ne se rejoint pas.
Est-ce que Bernard Arnault, il fait un énorme écart dans les statistiques parce que lui, il gagne beaucoup trop et du coup, il...
Non, parce qu'il n'y a pas de femme qui soit à son niveau.
Puis surtout, est-il vraiment salarié de LVMH salarié, ou je pense que ouais, il n'est même pas dans nos stats, là. Ouais.
Non, de toute façon, il n'y a pas l'équivalence féminin. Donc,
Oui, moi, je pense que plus ça monte, plus ça chiffre, plus les inégalités, elles sont...
Visibles.
Visibles.
D'accord, donc tu dirais faux.
Ouais, moi je dis que c'est faux.
Catherine dit vrai
que
plutôt.
C'est vrai, ouais.
Que ça
moi, je dis que c'est faux.
Et Coco faux. Eh bien, c'est faux. Les femmes cadres gagnent en moyenne
10% de moins.
16% de moins que les hommes cadres.
Mais
et
c'est
à l'inverse,
c'est pas 28.
L'écart est plus faible parmi les employés.
Oui, alors, mais c'est pas parce qu'elles
ont. On parle des femmes cadres.
C'est pas parce qu'elles ont changé de truc. Ouais, de
d'accord,
statut,
ok.
Donc voilà, effectivement. L'écart ne se réduit pas, au contraire, quand on est dans des fonctions,
des
fonctions élevées. Ouais. Troisième question. En quelle année l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sera-t-elle effective en France si l'on poursuit la progression actuelle ? D'ici une vingtaine d'années ? Au bout du siècle prochain ? À la fin du 22e siècle ?
Je dis jamais.
Bah, 22e siècle, hein, c'est comme quand tu passes le code de la route. Faut répondre le plus extrême possible.
Ah. Là, il commence à mettre en place des stratégies, Léo.
Moi, je pense 22e
Moi, je dirais 22e siècle, ouais.
Parce que et... là, aujourd'hui, forcément, ça se passe mal et il faut...
Ouais, Coco, elle répond carrément jamais, elle.
Ben non,
dans
jamais.
En vrai, tu dis quoi ? Si tu dois en dire une des trois, du coup, tu dis 22e
siècle ? Si la femme se fait poser des implants de... Ben, elle gagnera peut-être pareil que l'homme, mais sinon, jamais.
Bah effectivement, c'est 22e siècle. En 2186, ouais. Exactement, si l'on poursuit la progression actuelle. Voilà.
Ok.
Question suivante.
On ne va pas attendre d'ici là, quand même. Hein.
Non, on va essayer de...
Faire la révolution avant.
Ouais, voilà.
Ce ne sera pas trop là, quoi.
T'es avec nous, Léo. Merci. Quelle est la part des femmes à temps partiel ? 5%, 25% ou 32% ?
32%.
Oui, mais je dirais ça
aussi. J'ai pas compris la question.
Quelle est la part des femmes parmi les femmes actives, les femmes qui travaillent ?
Ah, hein.
Quelle est la proportion d'entre elles qui travaillent à temps partiel ?
Et c'était 22 ?
Donc 5%, 25% ou 32%.
Ah, moi, je pense 22 ou 32.
Alors, il n'y a pas 22, donc on va dire 32. Si
c'est
25.
25.
Ah oui, bah c'est
donc,
32.
T'hésites entre 25 et 32.
Oui, voilà.
Et tu dis 32. Donc, vous dites tous 32 et ouais, vous avez commencé à comprendre que finalement, les réponses les plus extrêmes sont
les bonnes.
Sont les bonnes, malheureusement.
C'est le code de la route, je vous dis, c'est la
c'est
technique.
C'est ça. En France, une femme active sur trois est à temps partiel, soit 32%. Et 82% des salariés à temps partiel sont des femmes. Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'en plus, ce qu'il faut rajouter, c'est ce que je disais au tout début, c'est que le temps partiel, il est souvent contraint pour les femmes. Et que c'est souvent des postes qu'elles occupent pour un peu jongler et réussir à s'occuper à la fois de la famille.
Mais ça tend à changer quand même. Il y a beaucoup d'hommes maintenant qui, d'abord, qui ont des congés de paternité qui sont plus longs. On est loin de la Suède, hein. ils ont 6 mois, eux. Hein. Mais bon, voilà, ça tend quand même à changer de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de choses. Ils vont prendre plus de congés aussi vis-à-vis de leurs employeurs. Donc, ça, je ne dis pas que ce sera comme les femmes, mais ça risque de bouger quand même.
Non, mais souvent, le temps partiel pour les femmes, c'est parce que c'est elles qui vont s'occuper des gamins, qui vont prendre, par exemple, le mercredi pour pouvoir les emmener faire des activités. C'est plus dans ce sens-là, c'est s'en occuper. La femme se sent toujours plus responsable de l'enfant que l'homme.
Alors, moi, je dirais que l'homme, alors je suis un peu divisée, l'homme, en fait, on ne lui laisse pas forcément la place qu'il voudrait avoir. Donc, comme c'est souvent la femme qui est la mère, de toute façon, qui est nourricière et qui n'a pas le choix, elle s'occupera toujours de son enfant. Un homme peut se détourner d'une éducation alors qu'une femme ne le fera pas. Donc, mais je pense que maintenant, l'homme s'investit davantage.
Oui, mais dans la société, on accordera plus facilement à une femme un temps partiel pour justement les raisons de s'occuper le mercredi de son enfant, des trucs comme ça. Qu'un homme, l'homme,
actuellement, oui.
Comme
si
il gagne plus.
Les premières questions sur lesquelles on s'est arrêté, il y a peut-être aussi une considération économique.
Ouais,
c'est que
ça.
Dans un couple, si jamais on doit décider qui est-ce qui va s'arrêter, on va peut-être décider, enfin s'arrêter, en tout cas réduire son temps de travail, on va peut-être se dire, il vaut mieux que ce soit la personne qui gagne le moins.
Ouais.
Et comme en général, c'est plutôt...
Alors, je reprends l'exemple de la Suède qui m'est cher parce que j'aime beaucoup ce pays. L'homme, il a 6 mois de congé, admettons, parental, et son salaire est conservé dans l'intégralité. Hein.
Vive la Suède.
Voilà.
Bon, en
Donc
tout cas,
ça,
du
ça
coup,
peut se faire, ça existe.
Espérons que pour le temps partiel, qu'il soit partagé pour le partage des tâches, ça, on n'y arrivera pas au 23e siècle. On le souhaite. Et justement, puisqu'on parle de partage des tâches, combien d'heures les femmes consacrent-elles en moyenne chaque jour aux travaux domestiques et aux enfants? Attention, ça va piquer. 1h13, 2h26, 4h38.
Alors, si elles travaillent, elles travaillent.
Oui.
Je dirais 2h26.
Moi, je dirais 4h38.
Bon, bah, moi, 4h38 aussi. Hein.
Parce que le matin, c'est elle qui, souvent, qui fait à manger, qui fait le petit déjeuner, qui le prépare, qui l'emmène à l'école. Souvent, le soir, c'est elle qui récupère, qui va l'aider à faire les devoirs. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais c'est elle qui va s'occuper. Elle va quand même faire à manger pour l'enfant, plus pour l'enfant que pour elle et son mari. Et le soir, il y a celle qui va raconter l'histoire au gamin pour se coucher. Donc, pour moi, il y a déjà 3 heures le soir et 1 le matin. Donc... La plus forte.
Coco, elle a fait le décompte, c'est bon. Bon, c'est vrai que j'avais un peu biaisé la réponse dès le début en disant que ça allait piquer. Effectivement, 4h38. Au quotidien, les femmes consacrent 2 fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques et aux enfants.
C'est pour ça que moi, j'ai pris l'habitude à cette époque-là de ne plus faire le ménage. Et je continue comme ça, c'est très bien, je gagne du temps.
Donc la question, c'est les tâches ménagères.
Un aller Paris-Nantes en voiture.
Voilà.
Non, c'est les enfants. Elles s'occupent de l'enfant.
Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un tunnel. C'est le tunnel du soir pour les parents, c'est ça. Dans un Paris-Nantes qui ne s'arrête pas. Sortez-moi de là. Alors, enfin, dernière question. À la retraite, quand les femmes font valoir leurs droits, elles touchent en moyenne, autant que les hommes, environ un quart de moins ou 40% de moins.
Bah, je dirais, à l'époque, on était parti pour 36%. Donc, je veux dire 40.
Bon, bah, moi, je suis coco.
De moins
qu'un homme à la retraite. En 93, quand les calculs, tout a été rebidouillé.
Remis à plat.
On a... Ouais, moi, j'ai perdu 38%.
Oh là là.
De mon salaire pour la retraite. Ouais. Et heureusement qu'il y a les complémentaires.
J'ai perdu un cinquième, moi. Donc...
Moi, j'ai pas encore été confronté à ça, mais...
Donc, Coco dit 40%.
Ouais.
Léo moi aussi, je dis 40.
Aussi. Catherine.
Sinon, c'est l'autre.
Alors,
l'autre, c'était un petit chiffre.
C'était un quart de moins ou elle touche autant que les hommes.
Ah non. Elle touche pas autant que les hommes, donc un quart.
Je dirais un quart.
Ouais.
Mais c'est bien 40%, malheureusement. Et en intégrant la pension et les droits familiaux, l'écart... se réduit, entre guillemets, à 29%. Donc, les femmes partent en moyenne 1 an plus tard et elles subissent davantage la mesure de décote. Voilà, voilà. C'est joyeux tout ça.
Ouais.
Ah, j'espère que ça vous super. Donne à toutes et à tous envie d'aller dans
faire
la
des
rue.
Gosses.
Alors faire des gosses, ça c'est voilà, c'est votre... mais en tout cas d'aller dans la rue samedi après-midi pour manifester pour les droits des femmes. Est-ce que on a bien répondu à la question ? C'est dépassé ou pas ce combat ?
Non.
Non, c'est pas dépassé, mais...
Mais aller manifester, ça sert à rien, parce voilà. que de toute manière, tu rentreras, il faudra que tu tapes le boulot que t'as pas fait pendant que tu manifestais.
Et pourquoi pas se dire que, comme t'es parti manifester, et ben t'as laissé les gamins avec leur papa, et qu'il s'est occupé d'eux pendant ce temps-là. C'est toujours ça de gagner, une journée avec la moyenne qui a réduit.
Ouais,
je sais pas. C'est dommage, Louis, qui n'est pas là pour répondre.
Ah, mais je suis sûre qu'il est en train de nous écouter attentivement.
Oui,
et
ça, oui, oui,
à mon avis,
sûr,
il ne pourra pas
sûr.
S'empêcher de nous donner sa, de nous donner sa, sa vision son, de la, son la question.
Absolument.
Bon, eh ben, je vous remercie pour vos réponses et votre attention sur ce quiz. Donc, je précise juste que je l'ai récupéré. Ce n'est pas une invention de ma part. Je l'ai récupéré sur le site de la CGT. Qui fait un travail un petit peu de fond sur cette question de la lutte pour les droits des femmes et notamment sur la question du travail.
Mais ils ont dû aller récupérer tout ça sur le site de l'INSEE.
Alors, l'INSEE et d'autres, parce qu'il y avait d'autres sources, il y avait la Cour des comptes, etc. Voilà, donc je rends à César ce qui est à César et en l'occurrence à la CGT ce qui est à la CGT. On passe au deuxième sujet ?
Ouais. Let's go.
Si vous en êtes d'accord.
Totalement.
Absolument rien à voir.
Eh non.
Quoique. Parfois, aux Césars et aux Oscars, on a des prises de parole, surtout ces dernières années, après la vague MeToo, etc., qui étaient quand même en lien avec les combats pour les droits des femmes. Cette année, donc moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez regardé déjà une des cérémonies ? On a déjà eu un début de question,
pas
de réponse.
Tout.
Non.
Alors là, pour moi, non. C'est un peu un truc de péteux. Enfin, je sais pas.
Ouais.
Il y a des mecs qui sont là, ils sont tous en train. Ouais, j'ai fait un bon film.
Ouais, je fais une petite branlette de cerveau.
Ok. Cosette, toi aussi, tu voilà.
Oui, c'est. En fait,
ça sert à rien. C'est.
Oui, Cosette.
C'est pompeux. Ça sert à rien. Tu regardes, moi, j'ai un titre, mais on n'en a rien à foutre.
Après, les passionnés de films et de cinéma, pour eux, ça leur fait découvrir des choses. Quoi. Mais bon.
Moi, j'aime beaucoup aller au cinéma, mais je regarde pas pour
Catherine.
Autant.
Oui, mais tu regardes les Césars, tu peux découvrir le meilleur film d'une catégorie de films que tu n'allais pas voir.
Ouais, c'est
oui, mais c'est relatif.
Oui, c'est relatif, mais c'est forcément bien. Enfin, pas bien, mais c'est forcément... S'il a été aimé par plusieurs personnes, c'est comme une review. Donc, on va peut-être aller acheter un ticket et aller voir ce film.
Et t'as pas pensé que des gens peuvent truquer tout ça ?
Moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, Léo, et je fais partie... Enfin, je pense être une passionnée de cinéma. Et c'est vrai que... je me tape pas toute la cérémonie des Césars ou des Oscars, mais... Quand il y a des films comme ça qui sont un peu, enfin, à côté desquels je suis passée à côté et que je vois qu'ils ont une récompense, ça m'incite à me poser la question, tiens, est-ce que je ne suis pas passée à côté d'un bon film et voilà. Après, il y a autre chose, c'est que là, en l'occurrence, moi, il y a des... c'est quand même un moment, cette cérémonie, où certaines personnes ont... la possibilité d'avoir une tribune, parce que cette cérémonie, elle est quand même très suivie, ça peut être aussi, pour certaines personnes, une tribune. Et notamment, donc, moi, pour le coup, j'avais deux coups de cœur sur la cérémonie des Césars. Le premier, c'est la révélation de l'année, la révélation masculine de l'année, qui est Abou Sangaré. Je vous en avais parlé, en plus, du film... c'est pas Le Voyage de Souleymane, c'est... Donc c'est de Souleymane.
Oui,
on
l'ai
a
vu
retrouvé
en plus.
Ça.
Je l'ai vu.
Voilà, je me souviens aussi Catherine l'avait vu.
Ouais.
Et donc il est assez incroyable cet acteur. Enfin donc acteur maintenant, mais il est très proche du rôle qu'il joue dans le sens où c'est un livreur Uber qui est sans papier et qui lutte pour
l'histoire
pouvoir
de
se
Souleymane.
Faire. Voilà, c'est l'histoire de Suleiman. Merci Catherine. Et donc, il a été régularisé après, oui. Après le film. Mmh. Et donc, il a eu un discours qui était assez poignant. N'est-ce pas, Léo ?
On le lance.
Allez, c'est parti, on écoute ça.
J'avais presque plus de vie. Je vivais parmi les gens comme ça, juste voilà, être parmi eux. Mais c'était pas considéré, je ne me considérais pas maintenant comme un être humain. Puisque vous savez, depuis que j'ai traversé la mer Méditerranée, jusqu'en avril 2023, bah, j'ai connu tout. La misère, tout ce qui est la misère, tout ce qui est l'être humain, le bon comme le mauvais, j'ai connu. Et sur être resté dans toutes ces misères, un jour, gop, je vois deux personnes qui se présentent en pleine journée en me disant que, bah, écoute, Sangaré, on a une proposition de travail pour vous. Si ça vous plaît, bah, on va faire ça ensemble. Bah, j'étais coincé à l'intérieur de moi, puisque déjà j'étais en prison. Quand on n'a pas de solution de sortie, de vivre dehors comme on veut, bah, on considère comme une prison. Mais grâce à eux, grâce à l'histoire de Suleiman, grâce à mon équipe, grâce à nos distributeurs Pyramide, grâce à nos attachés de presse qui ont permis vraiment d'avoir une très grande visibilité de l'histoire de Suleiman, dont les uns des autres se posent la question, comment ça se fait qu'un sans-papier tourne un film comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Merci à vous pour votre intégration au sein de l'humanité. Aussi, j'en remercie infiniment l'Académie aussi de m'avoir remis ce prix en toute sincérité. Merci à tous et bonne soirée à vous.
Non Catherine, seulement il était sans papier, mais il avait une obligation de quitter le territoire français. Donc je trouve que le film l'a beaucoup aidé, tant mieux pour lui, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et je voulais revenir sur le fait de ne pas regarder systématiquement les Oscars ou les Césars. Moi, il y a un truc qui me gêne, qui me dérange, c'est cette auto-congratulation. C'est vraiment des initiés, quoi, qui se... Moi, ça me gêne. Je ne veux pas dire que je suis choquée, mais je suis gênée de ça. Ça me plaît pas. C'est pas sain pour moi. J'aime pas, en fait.
Le fait qu'il y ait ces remerciements...
Interminables.
Service de... Enfin, attaché
tout
de
le monde
presse,
y passe.
Producteur, etc.
Tout le monde y passe.
Après, c'est vrai que c'est des personnes qui sont un peu dans l'ombre et ça leur donne une visibilité. Et voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui. Mais c'est des personnes qui font un travail, qui prennent parfois des gros risques sur des films. Et le fait d'avoir ce remerciement et donc d'avoir une visibilité sur une cérémonie comme celle-là, je pense que c'est aussi un peu une sorte de, comment dire, d'aboutissement pour eux.
Alors, que toute l'équipe soit... Mais je ne parle pas du mec qui tire les câbles, hein, je ne parle pas de celui-ci. Hein. Là, ouais. Qu'on le remercie, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, c'est les producteurs, c'est ceux qui investissent, Je veux dire, moi j'aime pas. Voilà, c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi.
On entend.
Ouais, je comprends. C'était très poignant. Là. J'ai trouvé ça très poignant à Boussangaré, son discours. Mais je rejoins Catherine juste sur le fait. Moi, ce que j'aime pas, c'est me dire que je participe à un showbiz qui n'a rien à voir en fait avec l'art du cinéma. C'est plus ça qui me dérange.
C'est
moi,
ça.
Après.
Ouais, c'est ça.
Mmh. Ouais. Ouais, je comprends.
Il y a un film moi, que j'ai vu deux fois qui est Le Comte de Monte Cristo et il n'a eu aucune récompense. Ce qui n'est pas normal non plus.
Elle fait son coup de gueule. Voilà.
On le compte dans coup de cœur pour Le Comte de Monte Cristo
ouais.
Et coup de gueule pour Il n'a pas eu de récompense.
Voilà, à la limite, pourquoi pas ce film ouais. Je veux dire, il y en a d'autres qui ont été récompensés. Je ne connais pas, je les vois pas tous les films, j'en vois beaucoup, mais. Ouais. Voilà, est-ce que c'était à cette... Pourtant, j'aime pas les super productions, hein. Mais voilà, j'ai trouvé ce film vraiment très bien fait, l'histoire était bien, bien racontée et tout. Je veux dire, c'était à la portée de tout le monde. Et Pierre Niney, bon, il est quand même, on va pas, je veux dire, refaire sa critique, hein, voilà. Mais voilà, j'étais étonnée, mais c'est tout. Ouais. Voilà, ça s'arrête là. Hein.
Coco, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Alors, je montre un visage passif.
Ok, elle n'a rien à rajouter de plus. Bah, écoutez, moi, c'est vrai que l'extrait... je l'ai, du coup, j'avais regardé un petit peu des extraits après la cérémonie. Je n'ai pas regardé la cérémonie, mais le lendemain, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était dit, etc. Et c'est vrai que cet extrait-là, moi, je trouve ça extrêmement poignant aussi. Quand il dit « Merci de m'avoir ramené dans l'humanité », en plus, quand on a vu le film où vraiment ce film-là parle de ça, quoi. C'est de redonner de l'humanité à des trajectoires de vie de personnes dont on entend tellement parler comme une grosse masse un peu indistincte, que ce soit parce qu'il a aussi traversé la Méditerranée, je crois, ou enfin voilà, il a eu ce parcours migratoire-là. Quand on entend les chiffres qui sont donnés de manière indistincte, c'est une masse un peu informe. Ces gens font partie de l'humanité. Et de redonner de l'humanité à l'un d'entre eux, ça redonne aussi de l'humanité à tous les autres.
Il reste beaucoup qui n'ont pas eu sa chance.
Mais bien sûr. Mais au moins lui, on en a parlé de cette manière-là. Et c'est pas juste un parmi d'autres. On a dit, c'est Abou Sangaré. Et c'est ça que moi, j'ai envie de retenir à travers ça.
Oui. Je dis tant mieux pour lui, il a une chance énorme. Voilà.
Il rappelle qu'il y a aussi toute une masse de personnes qui n'auront pas cette chance.
C'est ce que je dis.
Exactement.
Il le dit, bah oui, il en est conscient, voilà, évidemment.
Je pense qu'il est très conscient qu'il a eu la chance, il est sorti... une situation très dure il a un nom, quoi. Et c'est ça.
C'est comme il y a eu des... Bon, je fais une petite aparté. Il y a eu des gens qui ont fait des actes de bravoure, qui ont été régularisés parce qu'ils ont sauvé quelqu'un. Du coup, ils ont des papiers. Ils sont... Voilà, bon, la récompense comme ça, OK, aussi. Mais voilà. Bon. Je rajoute rien.
Bon. J'avais un deuxième coup de cœur. C'est encore quelqu'un qui a fait une prise de parole politique pendant cette cérémonie. Et c'est vrai que moi, c'est ça, en fait, qui m'intéresse aussi dans ces moments-là. C'est des personnes qui vont avoir un discours un peu... qui va essayer de secouer un petit peu l'auditoire. C'est Gilles Perret qui a reçu une récompense pour La ferme des Bertrands. Donc, c'est un documentaire. Et il a eu donc un discours qui était... je trouve assez intéressant.
Je crois que le déterminisme social aurait dû m'empêcher d'être ici devant vous ce soir. Donc je voudrais aussi remercier toutes les structures, tous les gens qui ont conjuré le sort. Je pense à ma famille, mes filles, je pense au village de Quincy, je pense à l'hôpital public, je pense à l'école publique, je pense à la cotisation sociale, je pense à l'impôt, et toutes aux structures collectives qui nous permettent de faire société. En tout cas, ce César m'incite à continuer dans la voie que j'essaie de tracer, c'est essayer de rendre visibles les invisibles. Dans un pays où on tend plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu'aux 10 millions de pauvres. Dans un pays où les dirigeants, pour rester en place et pour ne pas contrarier les puissants, préfèrent s'allier à l'extrême droite fasciste plutôt que poser la question... du partage des richesses et de la protection de la planète. Attention, méfions-nous, cette histoire, on la connaît déjà, cette petite musique mortifère, on l'a déjà entendue. C'était celle des années 30, où déjà à l'époque, on disait plutôt Hitler que le Front populaire. Ça va vite, méfions-nous. Et nous, gens du cinéma, je crois que ce serait bien d'y mettre un peu les pieds. Parce que... J'ai trop souvent l'impression que dans le monde du cinéma, on regarde parfois trop souvent ailleurs et que la maison brûle et on filme ailleurs. Voilà.
Je vous remercie. La maison brûle et on filme ailleurs. Bon.
Super beau. J'ai la chair de poule. Là, c'est très très beau. J'ai magnifique ce témoignage.
Et donc, il a fait un film documentaire sur donc s'appelle La ferme des Bertrands, que je vous invite aussi à aller voir. Donc voilà, c'est pour ces moments-là, moi, que j'aime bien cette cérémonie. Après, je partage nombre des critiques qui ont été faites par vous.
Ah, mais c'est, pour moi, c'est une critique de cette cérémonie que je donne. Mais jamais des discours qui sont dits. Il y a plein de... Par exemple, là, je peux faire aussi un lapsus avec... comment ça s'appelle le Super Bowl. C'est un match de foot américain le plus suivi au monde aux États-Unis, où il y a eu, pendant l'entracte, pendant la pause, un concert... enfin, pas un concert, mais un show de Kendrick Lamar, qui, juste après l'élection de Donald Trump, a prononcé « We are going to the wrong way ». Enfin, il a épelé « wrong way » pour... Il n'aurait pas pu dire plus, parce que ce n'est pas une cérémonie où il avait l'occasion de parler, en fait. Il devait chanter. Mais peut y avoir des revendications qui sont faites dans des cérémonies où c'est du showbiz, c'est juste du... C'est du divertissement pour tout le monde, mais peut quand même y avoir des gens qui osent, quoi. Et moi, je trouve ça beau.
Coco, t'en as pensé quoi, là, de...
Je reste sans voix.
On n'arrive pas à l'accrocher, Coco. Bon, bah ouais, moi, j'ai bien aimé le fait qu'ils disent que de là où il vient, il doit presque tout, quelque part, à notre modèle de société qui repose sur la solidarité collective. Moi, c'est quelque chose qui me parle bien, et particulièrement à l'heure actuelle où ce modèle, il est particulièrement attaqué. Donc voilà.
Merci pour cette super intervention avec le César là. Et que du coup, j'ai l'impression d'avoir raté quelques moments, mais ça avait l'air sympa quand même.
Ouais, j'ai choisi les deux meilleurs, t'inquiète.
Ok. Il y avait rien d'autre.
Si, après, si, il y avait d'autres.
J'ai fait un bon film parce que je suis trop fort et que je.
Bah, c'est Jean-Pascal Zadi qui était le maître de cérémonie et c'était pas déplaisant son introduction.
Ok.
C'était pas déplaisant.
Il a dit quoi?
Bon, il a. Non, bon, je peux pas te le résumer maintenant. On va laisser la place au blabla, je pense.
Hey, hey, les ragots de la radio.
Bon, j'ai essayé de prendre des trucs un peu farfelus que j'ai pu trouver. Donc, on a l'architecte du futur, une maison en peinture. Dans un élan de génie écologique et culinaire, un architecte a eu l'idée de bâtir une maison à partir de pain dur récupéré chez les boulangers locaux. Mais pas question de simplement empiler les miches. L'architecte broie le pain pour obtenir une poudre fine qu'il mélange à des produits biodégradables. Résultat, une maison entièrement éco-responsable, résistante aux intempéries et surtout qui sent bon le pain frais. Cette maison panée, comme il l'appelle, est dotée de murs solides et d'une isolation naturelle, offrant une chaleur agréable en hiver et une fraîcheur estivale. Les fenêtres, elles sont en croûte de pain, délicatement modelées pour laisser passer la lumière tout en restant croustillantes.
Pas mal.
Lorsqu'on lui demande si sa maison peut résister aux éléments, l'architecte répond fièrement « pluie, pas de problème, vent, aucun souci ». En revanche, attention aux oiseaux et aux gourmands qui risquent de vouloir s'inviter à la fête. Un véritable chef-d'œuvre de l'architecture durable, mais n'oubliez pas d'ajouter un petit panneau « ne pas mordre les murs ».
Ok.
Luangxing, le village où les piétons passent un permis pour traverser. Face à une explosion de blessés à cause de comportements imprudents, le village de Luangxing, en Chine, a décidé d'introduire un permis piéton. Désormais, pour traverser les rues en toute sécurité, chaque habitant devra suivre une formation en 3 étapes. La théorie, comprendre les règles de base de la circulation et l'importance des passages piétons. 2. La pratique, traverser une rue sous la supervision d'un instructeur en évitant distractions et obstacles. Et 3. Le test final, réussir à traverser un carrefour animé sans se laisser distraire. Si l'épreuve est ratée, retour à l'école pour un perfectionnement. Bientôt, les experts du permis piéton pourraient devenir les nouveaux héros du village, maîtrisant l'art de traverser sans un faux pas. Un village où se reposer. Imaginez un instant, vous êtes à Saint-Aignan-près-Coq, ce charmant village creusois où le plus grand événement sonore de la journée est le coq qui s'égosille pour annoncer l'aube. Ici, les vaches meuglent paisiblement, les poules caquettent en liberté et même le tracteur du fermier semble murmurer ne pas troubler les inquiétudes ambiantes. Pendant ce temps, en ville, c'est une autre symphonie qui se joue. Les klaxons forment une cacophonie digne d'un orchestre sans chef. Les marteaux-piqueurs battent la mesure avec une ardeur sans égale et les sirènes ajoutent une touche dramatique à ce concert improvisé. Pas étonnant que Nonnerre joue les premières loges dans ce spectacle sonore. Des études ont montré que les sons de la nature, comme le murmure des vagues ou le chant des oiseaux, peuvent réduire le stress et favoriser la relaxation. Alors pourquoi ne pas troquer le vacarme urbain contre la douce mélodie de la campagne ? Après tout, entre berceuse bovine et une sérénade de klaxon, le choix est vite fait pour qui cherche la paix de l'esprit. En somme, si vous soyez adepte du chant du coq ou nostalgique du bruit des vagues, il est peut-être temps de réévaluer notre bande son quotidienne. Parce qu'entre le tumulte de la ville et l'harmonie de la nature, notre bien-être a déjà choisi sa playlist.
Ah mais Coco, c'est Paul Verlaine ou pas là ? Tu nous as fait une super poésie. Là. Super
non, beau. J'ai pris ça dans les infos marrantes.
Okay.
En Sicile, l'Etna offre depuis plusieurs jours un spectacle naturel impressionnant, mêlant glace et feu. Il crache de la lave alors qu'il est recouvert de neige. Le phénomène attire des milliers de curieux qui viennent admirer la lave en fusion, serpentant les pentes enneigées. Mais la fascination collective vire au chaos, rapporte le Guardian. Les autorités locales dénoncent un tourisme sauvage qui met en danger la sécurité des visiteurs et entrave l'accès des secours. 8 randonneurs, dont 2 mineurs, se sont égarés et n'ont été retrouvés que plusieurs heures plus tard. La veille, un homme de 48 ans s'était fracturé le pied après une chute. Face à l'influence, les maires des communes environnantes ont imposé une distance minimale de 500 mètres entre les visiteurs et la lave, mais la directive semble largement ignorée. Les vidéos des touristes défiant les dangers fleurissent sur TikTok, toujours TikTok, alimentant encore davantage le phénomène. Certains internautes immortalisent leur proximité avec la lave et tentent de skier sur les pentes encore fumantes du volcan. La situation rappelle d'autres épisodes de surtourisme enregistrés récemment à travers le monde, encouragés par leur exposition sur les réseaux sociaux. En Espagne, un homme a récemment endommagé une peinture vieille de 6000 ans pour une photo sur Facebook. L'automne dernier, un Allemand de 22 ans, c'était toi Léo, avait été arrêté à Florence après avoir endommagé une statue de la fontaine de Neptune sur la Plaza della Signoria.
Personne ne m'a vu.
Toujours à Florence, en juillet, une jeune femme a été filmée alors qu'elle simulait un acte sexuel contre la statue de Bacchus. L'automne dernier, enfin, le visiteur du site d'Angkor Wat au Cambodge se filmait en train de courir à travers les ruines du site, comme dans le jeu vidéo Temple Run. Face à cette multiplication de comportements problématiques, les anglo-saxons ont imaginé un nouveau surnom amusant sur les touristes, les nommant désormais les tourons, contraction de touristes et morons, crétins. C'est la traduction. Hein.
Et en anglais, c'est quoi ?
Je sais pas en quel nom. C'est moron, c'est traduit en crétin. Enfin, c'est traduit moron, ça veut dire crétin. Okay. Et la dernière, technologie. Imaginez une télévision révolutionnaire qui se passe de télécommande. Il vous suffit de penser à la chaîne souhaitée pour qu'elle s'affiche instantanément. Cette innovation technologique, déjà explorée par des entreprises comme la BBC et Samsung, utilise des interfaces cerveau-machine pour interpréter vos ondes cérébrales et contrôler votre téléviseur par la pensée. Cette avalanche technologique pourrait également réduire les coûts de fabrication, supprimant la nécessité de produire des télécommandes et des piles, rendant ainsi cette technologie plus accessible au grand public. De plus, pour ceux qui préfèrent une approche plus traditionnelle, le contrôle vocal reste une option, offrant une flexibilité d'utilisation adaptée à tous les besoins. En somme, cette nouvelle génération de téléviseurs promet de transformer notre manière d'interagir avec nos écrans, alliant innovation, simplicité et accessibilité.
Ça fait peur un peu, je trouve.
Non, c'est bien.
Oh.
Je sais
quand
pas.
La télécommande, elle a dormi un certain temps, t'arrives pas à changer de chaîne tout de suite, donc tu te payes des fois des pubs dont t'en as rien
oui,
à...
Oui, mais si par exemple, là, tu regardes la télé avec ton frère, d'un coup, il pense à quelque chose, il est évasif, il regarde par la fenêtre, il voit un oiseau, il pense à RMC Découverte, et hop, ça va sur RMC Découverte.
Bah, tant mieux.
Ah ouais, insup, tu peux plus regarder la télévision avec quelqu'un.
Oui, c'est ça.
C'est individuel, quoi.
Déjà, faut si, pas regarder la télévision, les amis. Ce média est mort. Écoutez la radio.
Exactement. Ouais. Et écoutez, ça dit quoi ?
Voilà.
Et pendant que Coco faisait ses blabla, ça a ameuté le maître de cérémonie de cette émission en la personne de Loïc. Bienvenue à toi.
Salut l'équipe, ça va ?
Oui,
ça va.
Ah, ça va parler de la cérémonie des Oscars, César.
On va parler des Césars. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des Oscars.
Ouais.
Tu vois, j'ai essayé d'aller les titiller, mais bon, je suis allée avec les rames. Il n'y en a aucun qui était intéressé par le truc. Donc, je ne suis pas allée sur les Oscars.
T'as un mauvais public, là.
Ouais, c'est
là,
clair.
C'était pas le jour, là.
C'était pas le jour.
Non.
Mais on aurait pu dire des choses sur les Oscars. Non, on a parlé des Césars.
Ouais, les Césars, bah si, je peux donner mon avis.
Allez, on
Salut
t'écoute.
Salut tout le monde, ça
Salut.
Va,
vous avez
passé une bonne semaine.
Mais oui.
J'ai un peu regardé de loin, parce que moi, je suis pas trop fan des cérémonies de récompense dans le milieu artistique.
Voilà, en ça, tu rejoins une bonne partie des
chroniqueurs
de cette émission. Et de pas mal de monde, c'est vrai. Hein. Oui,
ouais.
Bien sûr.
C'est vrai que je trouve que c'est très... élitiste un peu, et c'est quand tu arrives à rentrer ton pied dans ce show business-là que tu es récompensé, alors qu'il y a des choses magnifiques qui sont en dehors et qu'on ne met pas assez en avant. Mais c'est une bonne tribune pour les messages politiques ou les messages sociétaux que les artistes font, que les artistes utilisent et tout. C'est une bonne tribune.
Après, je trouve que dans une époque où effectivement il y a souvent des vidéos qui sont comme ça relayées sur des réseaux après avoir été Léo, tu parlais du Super Bowl par exemple.
Ouais.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui regardaient le Super Bowl, mais par contre il y en a beaucoup qui ont vu la performance de Kendrick Lamar.
Quatre Français qui ont regardé ça, et que t'en as 5 millions qui ont entendu parler de Kendrick Lamar
qui ont vu la vidéo. Voilà, donc effectivement pour les Césars, je pense qu'il y a des interventions comme ça qui ont lieu et qui touche beaucoup plus de personnes que ceux qui ont regardé la cérémonie.
Ouais, c'est vrai qu'on regarde plus ces vidéos-là qui circulent que la cérémonie en elle-même. D'ailleurs, je ne sais même pas qui a gagné quoi dans l'histoire, en vrai.
Bon,
non, mais c'est...
bienvenue au club.
Voilà.
Non, mais en plus, ça a l'air ennuyeux un peu, les Césars. C'est comme les Molières, tout ça. Ils ont l'air tous... Poète, comment on dit cucu la praline, c'est ça? Assis, comme ça.
Amidonné.
Voilà, ça, on dirait ils n'ont pas le droit de dire un mot au-dessus de l'autre, je sais pas, ça fait très... Il n'y a pas d'ambiance, quoi. C'est pas comme les shows américains,
ouais,
les
c'est pas
BET
ouf,
Awards,
quoi.
Où il se passe quelque chose.
Ah ouais, là, ouais.
T'es parti sur un extrême.
Bon, je regarde pas plus, mais bon, je vois ce que tu veux dire.
Même si pareil, c'est la
Il y a de l'ambiance, oui.
Comment ça va? Ça va, Coco?
Ouais.
Ouais? Tu nous as fait des blabla aujourd'hui. Tu n'as pas parlé d'animaux.
Non, ben c'était la semaine dernière.
Parce que j'ai vu des vidéos d'animaux aujourd'hui. J'avais envie d'en parler. Un léopard, un guépard, pardon, qui a attrapé un lionceau. Et qui, pour le manger, du coup, il l'a mangé. Mais il y a le petit frère du lionceau qui était là, qui le guettait. Et qu'est-ce qu'a fait le petit lionceau qui guettait? Eh ben, il est allé appeler sa mère. Sa mère est revenue et le guépard était dans l'arbre. Non, c'était pas un guépard, c'était un léopard, pardon. Il était dans l'arbre en train de manger le petit, tout ça.
C'est cruel.
La lionne a réussi à monter, mais ils sont tombés. Et le léopard, du coup, il s'est barré en courant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la lionne n'était pas toute seule. Il y avait une meute de lionnes. Et du coup, ils ont attrapé le léopard et il a fait sa fête, quoi.
Ils l'ont mangé? Elles l'ont mangé?
Ils l'ont tué.
On ne voit pas s'ils la mangent, s'ils oui, le mangent, ils mais en ils tout cas, tué. Ils l'ont...
Ils l'ont, ils l'ont mis en prison.
Ils l'ont niaqué.
Ils l'ont fait du sale.
Il a été arrêté, jugé.
Bah, ils ont...
Mais je crois que c'est...
Le petit a été vengé, c'est dur.
Ah, mais c'est ouf, les animaux. Ouais.
C'est la nature, hein, c'est ouais, comme ça. Nature.
Je crois que chez les lions, la lionne, elle part avec ses petits. Parce que sinon, c'est le lion qui les
oui,
bouffe.
Oui, absolument. Le père peut donc, bouffer ses petits.
Pas le père. Alors, attention.
Si, si. Si le géniteur.
Non, c'est quand un lion arrive et veut s'accaparer une
femelle,
une tribu, il veut devenir le maître de la tribu, eh ben, il tue tous les lionceaux qui ne sont pas à lui. C'est pas les siens qui tuent. Il tue tous les lionceaux qui étaient là avant pour reprocréer sa propre lignée de...
Mais c'est un enfoiré quand même.
Un suprémaciste.
Ah, ouais, on a des spécialistes de la Big Cat Week, ce que je vois ici.
Ouais, je regarde à fond.
Ça sort
TV,
du cœur.
C'est ça, National Geographic.
Ouais, exactement, ça. J'adore les reportages animaliers.
Moi aussi.
C'est incroyable.
J'adore ça.
Ouais. D'ailleurs, il y en a un bon sur Netflix. Bon, c'est pas animalier, mais c'est sur les réserves naturelles du monde. Et c'est avec la voix de Obama. C'est Obama qui fait la narration et tout. Il a une très bonne
ça
voix.
Ça s'appelle comment
c'est
Obama.
Les réserves naturelles, je ne sais plus. Il en fait une par continent, il me semble.
D'accord.
Du coup, il y en a six.
Mais il est grave dans le game, Obama. Ouais, parce que c'est lui qui produit. J'ai découvert que c'était. Enfin, ouais. J'ai découvert en regardant la série qui a été faite sur l'équipe de basket américain des Jeux Olympiques. J'ai vu que c'était lui qui produisait.
Ouais, il produit maintenant.
Il est chaud.
Il est chaud. Et il est même maître de conférence. Hein.
Oui, bah ça, ils le font vont, tous.
Bah, ouais, bah, c'est, oui, bah, il est avocat.
On va l'inviter un jour ici, on va lui dire Obama, yo.
Allez, come on.
Il peut faire un service civique.
Hein. on aura des arguments.
Ouais. Ouais. Mais ça, ah, ouais, non, il n'y a plus de service civique.
C'est ce que j'allais te dire.
Bon, il faudra un stage.
Mais non, c'est pas fini, ils ont relancé le truc, non?
Non, je ne sais plus, mais si, ils ont dit que ça allait un peu partir.
Capoter.
Ça avait été stoppé à cause des budgets, mais il me semble que c'était reparti.
Bah, là, bon. De toute façon, il y a tout qui va capoter à cause de... Il faut qu'on soit en guerre contre la Russie, apparemment. Donc, il y a
ah
tout
ouais
qui va capoter.
Ah.
Ah, t'as pas entendu...
Emmanuel.
Emmanuel hier.
Ah non, j'ai pas écouté.
On aurait pu choisir, ah, ouais.
On peut en parler, tiens, qui
non,
l'a écouté. Non,
on peut non, ne pas.
On peut ne pas en parler, on n'en parle pas. Bah, du coup, sujet de la semaine, un sujet encore une fois choisi par Sophia. Sophia, tu choisis des très bons sujets.
Merci.
On parle de ghetto sorry versus éducation positive,
c'est
you know.
Ça, ouais.
Et tu voulais nous faire une intro?
Franchement, j'ai fait le before. Je te laisse introduire. Hein.
Waouh, j'étais pas prêt. Je
t'étais
n'ai
pas
rien
prêt.
Préparé.
En vrai,
je vous le dis tout de suite. Je n'ai rien préparé.
Ouais, je peux.
J'ai regardé un peu et en fait, ghetto sorry, ça part de TikTok, il me semble.
Ça part de TikTok.
TikTok,
exactement.
Des mamans influenceuses qui sont là, qui disent, voilà.
La première, c'est Jessica French Riviera.
Voilà,
de
exactement.
De son vrai faux nom de TikTok.
34 ans, niçoise.
Voilà.
Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi Ghetto
Sorry? Bon, allez, vas-y. Vas-y. Je sens que là, il est en... Vous le voyez pas.
Il est chaud.
Derrière votre poste de radio. J'adore dire ça. Vous ne le voyez pas. Mais il était en PLS. Donc, je vais essayer de l'aider un petit peu. Mais un peu en impro aussi. Ça part d'une vidéo sur TikTok d'une mère qui donc en fait explique que sa manière d'éduquer ses enfants, c'est elle a pas le temps en fait avec ce qu'on appelle l'éducation positive avec une approche bienveillante, etc. Enfin, du moins elle, la manière dont elle l'entend. Et on pourra revenir après dans le débat là-dessus. Mais donc, elle donne certains exemples. Alors, ceux qui concernent cette première vidéo-là, je ne les ai pas forcément en tête, mais ça va être des choses du type un papa ou une maman qui va dire bah, « Moi, je suis une maman ghetto-sori ou je suis un papa ghetto-sori. » Évidemment que si jamais mon enfant, je lui dis de ne pas monter sur la chaise parce qu'il va tomber et qu'il tombe, eh ben, je lui dis « Cher !»
Voilà. C'est ghetto ça.
Ça c'est ghetto. Voilà.
C'est même méchant.
Alors, ça veut dire c'est bien fait, je te l'avais dit.
Ouais. Alors, donc il y a plusieurs choses à expliquer. Chef, déjà, ça veut dire bien fait.
Ouais. Bien fait, ouais, c'est
voilà.
Ça, c'est bien fait.
Mais bon, donc dans et donc ça a été ensuite, elle, quand elle finit sa vidéo pour expliquer la manière dont elle envisage les choses, elle dit qu'elle est une maman ghetto sorry, qui donc prend deux mots, ghetto, voilà, le ghetto, les gens qui sont issus des quartiers populaires, on peut dire, etc. Et de l'autre côté, Montessori, donc, qui... C'est pas vraiment Montessori, c'est plutôt, derrière ce qu'elle met en fait, en réalité derrière Montessori, c'est plutôt un type d'éducation qui serait tourné autour de l'enfant, qui prendrait plus en compte ses besoins, qui laisserait plus de place aux enfants, qui serait, quand on regarde les caricatures qui sont faites de l'éducation bienveillante, qui irait jusqu'à dire que, en fait, ils se mettent au même, qu'on met les enfants au même niveau que les parents. Voilà, il y a tout ça derrière. Et en gros, elle vient un peu percuter ça en disant « Mais non, c'est bon, moi je ne suis pas comme ça. Moi, je suis ghetto. Donc, je suis à l'ancienne. Mes enfants, depuis l'âge de 7 ans, ils font la vaisselle. » Enfin, voilà. Wow. Elle a tout un tas de petites choses comme ça pour dire que... voilà. Et alors, ça a pas mal... fait le buzz, comme on dit. Ça a pas mal tourné et ça, c'est devenu un gros trend sur TikTok parce que ce qui s'est passé, c'est que ça a permis aussi à tout un tas de personnes d'avoir un discours pour se décomplexer et pour se dire, c'est bon, on se détend avec il faut être une mère parfaite ou un père parfait, il faut être patient avec son enfant 24 heures sur 24, il faut ci, il faut ça. Il y a des fois aussi où on peut avoir une attitude un peu plus...
expéditive.
Bien, voilà, exactement.
Après, pour moi, Montessori, de base, la première fois que j'ai entendu ce terme, c'était plus pour parler des écoles Montessori qui, eux, étaient adaptées à des enfants qui ne rentraient pas dans les cases des écoles...
Non, c'était dont les parents ne voulaient pas pour eux l'éducation normale. C'était basé sur les...
Normal, c'est pas bah, le mot. Parce qu'il y a plusieurs, il y a énormément de types d'éducation.
Ouais, c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire que quand elle dit ghetto-sori, en réalité, ce qu'elle pointe, c'est pas Montessori, c'est un type d'éducation bienveillante. Mais comme ça faisait un jeu de mots ghetto-sori, ouais. Okay. Parce qu'en fait, c'est devenu un mot valise un peu Montessori. Et oui. Derrière ça, en
oui,
fait...
Même ghetto, j'ai l'impression, apparemment. Ah oui, ghetto... parce que le ghetto, je ne suis pas sûr qu'elle connaisse le ghetto, tu vois.
C'est vrai que Jessica French Riviera, je me demande quel est le lien. Mais ouais, effectivement, donc Montessori, c'est un peu un mot valise ici. C'est plus l'éducation bienveillante qui est pointée. Ce n'est pas vraiment les écoles qui appliquent la méthode de Maria Montessori.
Ok.
Ouais, parce que moi, j'avoue, quand j'ai entendu ça, je me suis dit... encore, on met un terme sur quelque chose qui existe déjà. Franchement, on peut parler d'éducation à l'ancienne.
On réinvente le show.
Là, pour
positive.
Moi, c'est on retourne à l'ancienne.
Oh là là,
après,
là, là
je suis d'accord,
c'est dingue.
Je suis d'accord que... Moi, ça me saoule les donneurs, donneuses de leçons et les donneurs de leçons sur Internet qui disent oui, il faut traiter l'enfant comme ça, tout ça. C'est clair qu'il y a des méthodes à avoir, que c'est bien de tu fais un enfant, c'est pas pour le maltraiter déjà. Tu fais un enfant, c'est pour t'en occuper.
Lui donner la parole, etc. Qu'il ait une certaine place, ça c'est normal.
Moi, je suis à fond pour l'éducation positive, pas pousser à son paroxysme comme. Comme on peut le voir souvent chez des gens, mais le truc ghetto-souris, pour moi, c'est retour aux années 80. Ça me fait penser à un épisode de Bluey. Je sais pas si non, vous devez pas regarder Bluey. C'est un dessin animé pour les enfants qui est extraordinaire. Mais vraiment, c'est un dessin animé, mais en vrai, c'est pour les enfants et pour les adultes. Quand tu regardes ce dessin animé, tu te dis, je suis un mauvais parent. c'est incroyable. Non, mais ce dessin animé est juste ouf, avec des valeurs de fou. Et un jour, il y a le papa, du coup, c'est une famille de chiens, et il y a le papa qui raconte son enfance à ses enfants. Et il dit, ouais, je vais vous raconter l'histoire d'un méchant garçon et tout. Et en fait, il raconte son histoire, comme quoi il était méchant avec ses petits frères, avec son petit frère, et il se moquait de lui et tout. Et ses enfants, ils sont là, quoi, toi, papa et tout. Il dit, ouais, bah, c'était les années 80, vous savez, on roulait en vélo sans casque, le papa ne connaissait pas nos noms, il faisait pas partie de l'éducation, on pouvait sortir comme on voulait, c'était dangereux, c'était les années 80. Et ça me fait penser un peu à ça, ce truc-là de ghetto sourire, retour en arrière, genre t'as pas fait un enfant pour pas l'élever, pour lui dire chèque quand il tombe. Je suis désolé, hein, mais pour moi c'est un peu hardcore.
Ah oui, pour moi c'est clairement retour en arrière. Hein.
Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais. Mais j'ai vu un autre truc aussi, c'était sur TikTok, c'est une maman qui disait, si mon enfant se fait taper ou harceler, je lui dis, tape en retour. Et pour moi, ça, c'est pas ghetto, hein. Excuse-moi, c'est défends-toi, c'est la base, tu te défends.
Oui, mais on leur dit aussi, ne fais pas à l'autre ce que c'est pas parce qu'il t'a tapé qu'il faut le taper. Il a pas eu raison de te taper, mais toi, ne fais pas comme lui.
Oui, c'est vrai qu'il y a cette éducation-là aussi.
Il y a ça aussi.
Mais des fois, ça
marche. Ne fais pas ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse, même si c'est en retour.
Moi, ce que je dis à ma fille, par exemple, je lui dis, tu vas voir les adultes. Si les adultes, ils ne réagissent pas, ils ne font rien, eh ben, la prochaine fois, là, tu te défends. Mais en premier lieu, tu vas voir les adultes référents. Mais malheureusement, la plupart du temps, ils ne font rien.
Mais non.
Du coup, je dis,
ils laissent les gamins se démerder entre eux.
Tu te défends, tu as le droit de te défendre.
C'est important.
L'enfant n'a pas le droit de te toucher, il n'a pas le droit de se moquer de toi. Tu te défends. S'il se moque de toi, tu te moques de lui. Tu sais, je vais apprendre des punchlines et tout.
Ça, faut faire attention parce que ça peut passer de j'essaye de t'endurcir à. À la fin, t'apprends à des mécanismes de défense qui vont peut-être être utilisés plus tard.
À l'attaque.
Ouais, mais justement, ça fait partie aussi de l'éducation. Tu t'expliques que.
C'est pour ça, faut gérer quand même ce.
T'expliques que tu donnes pas les premiers coups, ça sert à rien, c'est pas gentil. Enfin.
Mais alors, qui éduque les enfants qu'il y a en face? Alors, on les éduque à battre les autres, à se moquer, voilà.
Après, on n'est pas les autres parents. Hein.
D'accord, mais bon. Se défendre, c'est bien, mais ne pas attaquer, c'est quand même mieux, je veux dire.
Mais bien sûr, mais l'enfant d'en face, c'est pas mon enfant.
Oui, non, mais d'accord,
moi,
mais bon.
Je vais voir les enfants.
Que font les parents? Que font les autres parents? Le problème, c'est les parents, c'est l'éducation. Un enfant qui est qui est violent, je suis désolée, ça doit être pris en compte par l'éducation, par...
Est-ce que vous connaissez Janusz Korczak?
Non.
Alors, c'était un pédiatre, polonais, juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui gérait un orphelinat en Pologne.
Okay.
Il est mort après dans un camp à Treblinka. Et il a créé sa propre pédagogie. Donc c'est lui qui est acteur de la pédagogie active, le fait que les enfants, du coup, ils participent à la vie commune, ils sont acteurs de leur propre vie. Donc qu'on ne fasse pas les choses à leur place, mais qu'eux, ils soient vraiment acteurs. Et donc lui, il avait son orphelinat et c'était la République des enfants, où chaque enfant, il n'y avait pas de hiérarchie. Donc, chaque enfant avait sa place autant qu'un adulte. Et l'adulte faisait partie de... Par exemple, Korczak, qui était le directeur de l'orphelinat, faisait partie au même titre que les enfants. Ouais. Et donc, les enfants pouvaient, par exemple, faire un procès. Ils pouvaient aller voir le directeur et lui dire « Là, on en a marre de toi, on ne veut plus de voir. » Et ça descend un peu, pour moi, avec Montessori, où on se met un peu au même niveau. Ce que je trouve aussi important.
Mais ça veut dire quoi, se mettre au même niveau?
Moi, je dirais pas que c'est au même niveau, c'est que tout le monde a la parole. Tout le monde a la parole libre.
Le même niveau, c'est pas ma parole n'a plus de valeur que la tienne.
Non, même niveau, c'est... Non, ça, c'est pas possible.
Pour moi, ça, c'est quelque chose d'important.
Tout le monde peut s'exprimer.
Voilà,
Ok, c'est ça, se mettre au même niveau, c'est que ma parole a autant d'importance que la
tienne.
Voilà,
c'est ça.
Ok. Mais ne pas non plus partir dans un délire où, du coup, vu que t'es un enfant et que je veux ton bien, ta sécurité morale et physique, et ben maintenant, quand moi, je vais te dire quelque chose, ça aura moins de valeur. Non, c'est... Faut quand même aussi, pour moi...
Faut doser.
Faut doser, c'est ça. C'est du dosage.
Ouais, parce que... Vas-y, Catherine.
De toute façon, maintenant, la parole de l'enfant, elle a été écoutée. Elle est plus mise en avant qu'avant aussi. Maintenant, un enfant qui se plaint de quelque chose, on le croit. Sa parole n'est pas mise en doute. Donc, ça, c'est déjà un progrès. Donc, que l'enfant ait, je ne vais pas dire autant de... Pas de valeur, c'est pas le mot exact, mais...
Le crédit.
Oui, enfin...
Parce que c'est un enfant qui dit quelque chose,
il faut le croire.
Si c'est un mytho.
Voilà,
il y a des enfants mythos, des
Il y a des adultes mythos, il y a des adultes, tu vas les croire. Il y a des adultes mythos, il y a des adultes, tu
faut faire la part des choses. Voilà, c'est ça.
Non, mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que
en fonction du développement de l'enfant, son rapport avec le réel n'est pas le même que celui d'un adulte.
Ouais, c'est clair.
Et donc ça, il faut quand même l'avoir en tête quand on recueille la parole d'un enfant.
C'est ça.
Et pour moi, la sécurité morale et physique fait que y a quand même une responsabilité. Quand tu es responsable d'un enfant, il n'est pas responsable de lui en vérité, même si on peut lui faire croire qu'il doit prendre ses responsabilités, tout ça. Et c'est là où s'arrête Montessori, Janusz Korczak, toutes ces pédagogies, la pédagogie active, tout ça. C'est à partir du moment où il met sa sécurité morale ou physique en danger. Pour moi, c'est ça.
D'accord, ok. Bah ouais, tu t'éduques quand même l'enfant, du coup.
Oui.
Bah ouais.
Bah, c'est le but.
Non, mais c'est parce que
tu le laisses tout seul. Allez, fais ta vie.
Non, mais
vas-y.
C'est ça, mais
c'est le but, justement.
Le ghetto sorry, là, pour moi, c'est le problème avec ça. C'est cette histoire de. Il y a des enfants qui sont. Enfin, ils ont des problèmes après à l'âge adulte parce qu'ils ont des traumatismes. Donc, leur sécurité morale n'a pas été entretenue.
Mais pour moi, c'est surtout des pas. Pardon. C'est surtout des parents qui ont levé le pied. Et la nana, pour moi, la Jessica, elle préfère faire ses TikTok plutôt que de passer 5 minutes avec son fils.
Non, pas 5 minutes, 4 heures par jour.
4 heures par jour.
30, exactement.
À lui faire... C'était un quiz
là.
Tout à
l'heure. Fallait être là.
Désolé, j'ai pas écouté le before, j'ai écouté la fin et tout.
Oh là là, t'as loupé le best.
Ah ouais, ouf. En plus, j'ai raté ton premier lancement.
Je suis hyper déçue, là.
Mais moi aussi.
Non, alors ouais, donc où les gens ils préfèrent.
C'est le temps que passent les femmes par jour.
Plutôt que de faire à manger aux gamins, allez hop, on commande une pizza, comme ça c'est tranquille, et on fait ça tous les soirs. Ça va être.
Attends, c'est. Pardon, parce que je suis choqué un peu par le temps là. C'est une femme qui travaille ou qui.
Qui travaille.
Qui est une maman.
Ah, qui travaille.
4h30 par jour.
Oui, entre. Ce que vous disiez, Coco, on expliquait entre le matin et le soir, s'occuper des enfants, gna 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 gna. Moi, je pensais que c'était bon. Hein. J'étais étonnée.
C'est un truc de ouf.
Incroyable.
Je suis choqué. Pardon, désolé.
T'avais fini, Coco?
Non, mais c'est pas grave. Non, je commençais juste.
Ah, tu commençais juste. Ah bon, allez, on fait.
Non, ou si tu veux, il y a des gens, là, ils mettent que. Il y en a une qui préfère commander des pizzas quand elle n'a pas le temps de le faire, mais c'est pareil, c'est des gens qui ont TikTok et qui font leur TikTok. Celle qui remplace des comptines par du rap.
Mais celle ça, c'est
qui cache le pulse de son enfant parce qu'elle est trop fatiguée pour l'aider. Enfin, c'est vrai que le rôle de parent, ça ne s'arrête pas à. Non, mais je suis d'accord pour la musique. Mais il y a des choses quand même qui ne se font pas.
Non, mais même le pizza, tranquille, c'est bon.
Après,
la pizza.
Si leur métier, voilà. C'est
pas bon, c'est ça, la pizza, ça. Bon, moi, je ne suis pas pour, mais ça ne remet pas en compte l'éducation de l'enfant.
Moi,
quand même.
Je faisais commander ma fille, ça l'a responsabilisée. Bien sûr.
Allez, du Nutella.
Pas de marque.
Non, mais la nana, sa première vidéo où elle se présente, qu'elle parle de ghetto sorry, elle a quand même 180 000 abonnés. Tu calcules 1 euro par 1000 vues. Elle n'a plus besoin de travailler.
On ne va pas calculer son salaire.
Sophia.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand même dans ce remue-ménage qu'il y a eu autour de Ghetto Sorry, c'est l'aspect... on se détend un petit peu sur l'éducation.
Ouais.
Parce que on est quand même dans une époque où on est très, très centré sur l'éducation des enfants. On passe beaucoup de temps et on a beaucoup de charge mentale sur... et on investit beaucoup sur l'éducation de ces enfants. C'est vrai que y a des époques où les enfants étaient moins le centre de l'attention de leurs parents. Et je pense que c'est pas forcément un mal, y compris pour les enfants, en fait. Et qu'il y ait moins de pression aussi pour eux sur qu'on s'occupe d'eux. Et des fois, je vois des parents qui sont qui sont au jardin d'enfants, là, qui sont dans les bacs à sable et compagnie avec leurs enfants, qui les suivent à la culotte pour qu'ils descendent le toboggan ou qu'ils les font monter escalier par escalier. Écoute, frère, si jamais ton enfant il rate une marche et qu'il tombe par terre, il va pas mourir.
Mentalité,
voilà.
Il y a les ghettos qui est sorti.
J'ai fait un peu exprès parce que justement, je trouve que ce côté de dire vas-y, frère, c'est bon, tu peux tomber, c'est pas grave, c'est ça pour moi le côté ghetto sorry.
Ah, mais non, c'est pas ghetto sorry.
Et donc, Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, bah oui, c'est que
pour moi,
en fait,
pour moi, c'est normal.
C'est l'apprentissage.
C'est, oui, mais c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ce truc, pas de
danger,
ce trend,
il y a pas, on ne met pas en danger l'enfant.
Si je peux, si je termine, ce qui s'est passé dans ce trend, c'est qu'en fait, il y a eu ce que certains, enfin, il y a eu ce que cette fille en a dit, et puis après toutes les interprétations que les uns et les autres ont de ce terme. Et donc, moi, je l'interprète comme ça. Donc, tu vois, Léo, il dit, bah, pour moi, ça, c'est pas ghetto sorry. Puis, il y en a un autre qui va dire, bah, pour moi, c'est ça, ghetto sorry. Et donc, en fait, on n'est pas tous forcément en train de parler de la même chose. Et donc, des fois, on critique des trucs et on ne sait pas vraiment que la personne en face, elle pense la même chose que nous. Et donc, effectivement, il y a eu un peu à boire et à manger dans ce truc-là. À la fois, il y a eu des personnes qui ont ciblé des comportements qui étaient maltraitants, qui étaient dangereux. Et puis, de l'autre côté, juste des trucs de... Hey, c'est bon, on se détend un petit peu sur l'éducation des enfants, on leur lâche un peu la grappe et ça sera pas plus mal.
Ouais, mais c'est ça le piège des réseaux, tout ça, c'est que il y a des gens qui vont pas faire la part des choses. Il y a des gens qui vont utiliser ça en mode oui, on se détend, tout ça, mais il y en a d'autres qui vont prendre ça au pied de la lettre et qui vont se conforter dans une éducation qui n'est pas forcément cool, j'ai envie de dire. Mais bien sûr, ton enfant, il monte, il tombe. Bah, je te souhaite de tomber en vrai, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que...
Tu feras attention la prochaine fois. Bah,
un enfant...
Mets les doigts dans la prise, tu seras au courant.
Tu te brûles, après tu te brûles plus. Hein. Tu te brûles une fois, hein. Après tu ne fais plus.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que par rapport à toi, la phrase que tu as dit tout à l'heure, je te laisse finir après, quand tu as dit l'enfant, quand il tombe, la mère qui dit je ne sais plus quel mot. Là, c'est de la violence. Et par contre, l'enfant qui va tomber alors que tu l'as prévenu, si tu ne fais pas de commentaires, ça devient de l'éducation, plus ou moins. Tu vois, il y a une nuance qui est là, qui... je crois que c'est le mot de la
franchement,
du parent.
Quand les parents te disaient « je t'avais prévenu », franchement, je crois que c'était pire que quand ils disaient « cher ».
J'avoue, «
je t'avais prévenu », j'en pouvais
ouais,
plus.
Je moi. L'avais dit, ouais.
Je te l'avais bien dit.
Et tu te prenais une claque. Ah. Parce que tu n'avais pas écouté.
En plus de ça, tu t'es fait mal en tombant et en plus tu te prends une claque parce que tu es tombé, parce que tu apprends.
Voilà. Vas-y, continue.
C'est ouf. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup.
Mais si, ça,
voilà. Ça reviendra.
Non, mais c'est vrai qu'un enfant, quand il apprend à marcher, bah, il va tomber. Bah, oui, mais... tu le ramènes son plat, tu lui dis c'est chaud, fais attention, touche pas, bah, il va toucher. Ah, ça brûle. Ouais, ben bah, la prochaine fois tu feras pas.
Bah ça, il le fera pas deux fois.
Erreur. C'est. Ouais.
C'est sûr.
Mais pour moi, ça, ouais, c'est pas ghetto.
Et tu vois, par exemple,
c'est pas maltraiter un enfant hein, de faire ça, de laisser ça.
Tu disais, ça va, commander une pizza, ça passe. Ouais. Ben, typiquement, c'est un des éléments qui avait été mis dans une des vidéos où la nana disait, évidemment que si jamais je suis fatiguée le soir, flemme, on commande des pizzas. Ouais. Oui, ben, c'est sûr que tout le monde fait ça.
Mais on le fait tous.
De notre temps, notre mère, elle avait la flemme. Elle se mettait au fourneau et puis elle faisait à manger pour la famille.
Ouais, mais il n'y avait pas des pizzas au coin de rue.
C'est ça.
Alors c'est ça. Mais est-ce qu'elle l'aurait fait? J'en sais rien.
Non, nous, elle avait la flamme sandwich. Ouais. On était contents, sandwich, c'est quand tu es dehors.
Ou alors, le frigo est ouvert, servez-vous, faites ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez. Ça, on adorait ça aussi.
Ah ouais, ça, j'ai pas connu ça, moi, par contre.
Moi, j'ai connu. Moi, j'ai pas une barre dans le frigo.
mais y a rien. Bah ouais.
Ah, si, il y avait des trucs, elle voulait pas faire la cuisine. C'est le dimanche soir, par exemple. Ça, on savait. On adorait ça. Et hop, servez-vous, excellent. Faites ce que vous
mais
voulez.
Ça, c'est kiffant, ça.
Ah, c'est génial, on adorait ça.
C'est kiffant. Tu vois, ça t'a marqué en vrai.
Je m'en souviens,
Tu t'en souviens, absolument. Le dimanche soir, on avait ce truc-là. Ouvre le frigo.
Voilà, il y a ce qu'il faut. Vous allez manger ce que vous voulez.
Moi, je vais lancer un trend. Catrisori. Le dimanche soir.
Voilà, c'est le dimanche soir.
Allez, vas-y, mon fils.
Le dimanche soir.
On ouvre le frigo.
Allez, avant de redémarrer la semaine.
On tente un trend.
J'aimerais vous montrer, vous faire écouter une vidéo. C'est un TikToker. Bon, moi, j'ai pas TikTok. Hein. Voilà, je le dis.
Je l'aime et je le
écoute. Qui s'appelle Patou. Et en gros, lui, il fait une blague. En gros, c'est une critique de Montessori. Où il fait comme s'il avait un enfant qui s'appelle Graine de Sarrasin.
Ok.
Et je vais vous faire écouter écoutez ça.
Allez.
Mon fils Grain de Sarrasin a fait n'importe nawak. Il a dévissé le pommeau de douche et c'est ok. Il préfère se laver avec le jet comme ça, alors je ne sais pas quel intérêt. Mais voilà, il préfère dévisser le pommeau de douche. Bon, je lui dis que c'est ok même si c'est un peu n'importe nawak. Il a même tapissé les murs, voilà, avec un peu de caca, mais c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, je ne donne pas de règle à mon fils, mais j'ai quand même précisé quelque chose. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'il fume avant l'âge de 13 ans. Et j'ai mis des petites règles aussi du quotidien, par exemple. Si tu veux, si tu veux mettre le feu à quelque chose, c'est OK. Explique juste à maman après pourquoi. Et voilà, et là il est 23h et Grain de Sarrasin va aller s'amuser. Donc faire un tour dehors. Alors je vais le suivre. Allez mon Grain de Sarrasin. Et on va dehors, c'est parti. Alors attends mon Grain de Sarrasin. Ah bon, bah il m'a enfermé dehors, il en a rien à faire. Hop là.
Donc voilà, moi ça me fait vraiment rire. Donc c'est vraiment le parent qui n'a plus aucun contrôle sur son fils.
Oui, il ne veut pas en avoir. Hein.
Ouais, c'est encore l'exagération du coup de l'éducation positive.
Absolument.
Mais du coup, ça me fait penser à un film. J'ai regardé un film il n'y a pas longtemps. C'était, je ne sais plus avec qui. Avec Mark Wahlberg, je crois. C'était c'était pas Mark Wahlberg. C'est une famille, en fait. Genre, ils ont vu un truc sur Internet. Et c'est genre, pendant 24 heures, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais genre... ce qu'ils veulent. C'est vraiment le... Je sais plus comment s'appelle le truc.
Le yes day ou quelque chose comme ça. Voilà, ouais, c'est un vrai
ça.
Truc.
On dit oui à tout.
Les parents n'ont pas le droit de refuser.
Exactement.
Ce que leur demandent leurs enfants.
Ouais, c'était marrant ce film. Bon, après, c'est un film. Hein.
Oui, d'accord.
À la fin, genre, ils se rendent compte que en fait, les enfants, ils ne veulent pas forcément tout. Ils ont besoin de l'éducation.
Ils ont besoin de règles.
Ils ont besoin de ce truc-là.
Bien sûr, ils sont demandeurs de ça.
Ça reste un film.
Alors, c'est génial.
Et moi, j'ai fait ça une fois avec mon fils et mes nièces.
Ouais.
Un yes day. Effectivement, il faut être assez malin. Et quand ils ont, ils ont 8-9 ans,
ouais.
On arrive quand même à cadrer le truc pour que ça parte pas non plus dans tous les sens et que leur demande soit pas... Mais en général, quand même, ils sont assez raisonnables. Hein.
Ouais.
En gros, eux, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir regarder plusieurs dessins animés de suite sans que je les arrête au bout du deuxième. Ils voulaient pouvoir manger 2 glaces dans la journée.
Ouais.
Genre, c'était le truc de fou, quoi. Quoi ? On a le droit à 2 glaces ? Genre, on en a déjà mangé une tout à l'heure. Non, mais tu te souviens ?
T'es bien sûr, maman ?
T'es sûr, hein ? On en a déjà pris une, hein ? Et t'es d'accord ?
C'est eux qui fixaient
les... Genre, ils s'approchaient tout doucement du congélateur pour, en se disant « Non, il y a une feinte. »
C'est pas possible.
À un moment donné, elle va nous stopper en route. C'est pas possible. Donc, il y a un truc... Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il faut se mettre aussi à la place des enfants. Et c'est vrai que si on se rappelle de ce que ça a été d'être enfant, c'est un âge où, en fait, on ne prend pas de décision.
Ouais.
Toutes les décisions sont prises à notre place. Et c'est vrai que j'ai décidé de le faire. Ouais, et j'ai décidé de le faire un jour où mon fils, il en a eu un petit peu marre. Il dit « Mais j'en ai marre, je ne peux rien décider !» Tout ça. Il en était au bout du rouleau, le pauvre, parce que c'est un garçon qui adore lire. Et donc, j'arrête pas de lui dire « Mais arrête de lire, arrête de lire !» Ce qui paraît fou.
Ouais.
Mais je lui dis « Arrête de lire parce qu'il faut qu'on parte pour l'école » ou « Arrête de lire parce qu'on est en train de se préparer pour telle ou telle chose. » Et donc, à un moment donné, il en a eu marre. Et donc, je me suis dit « Tiens, et tout. » Je sais plus, c'était peut-être ce film qui m'y avait fait penser.
Ouais.
Et du coup, on avait fait ça. Et ben ça détend un peu les...
Oui, mais il se fixe des limites.
Voilà,
eux-mêmes.
Donc c'est gagnant-gagnant parce que normalement, si on n'a pas des enfants foufous, ils demandent pas des
ils
trucs.
Ils capitulent avant.
Voilà.
C'est le reflet d'une bonne éducation, quand même.
Et puis après, ça détend un peu les trucs sur les jours d'après. Et ils s'en souviennent. Là, ils m'en reparlent encore. Ils me disent, quand est-ce qu'on fait le prochain jour où on peut dire, où tu dis oui à tout ?
Mais ce sera plus en plus dangereux. Hein.
Il va falloir que j'arrête. Mais donc, je le conseille aux parents qui écoutent l'émission.
Ou tu fais ça pour l'anniversaire.
Ouais, ça peut être pour le
pour les jeunes enfants en fait.
Oui.
Sinon après.
Ouais, parce que si jamais. Ouais. en fait, la journée où tu dis non à tout, c'est tous les autres jours de l'année.
Mais est-ce qu'on peut faire une journée où j'ai pas besoin de me répéter quelque chose.
Oh, ça, ce serait magnifique.
Ouais, ce serait magnifique. Ok, on peut faire un deal. Je fais un yes day si toi tu fais une journée où j'ai pas besoin de me répéter.
Ah ouais, c'est ça.
Au moins 3 fois.
Non, même pas, c'est direct. Ah, franchement,
meilleure journée de ma vie.
Ah,
ça,
ouais. En tout cas, moi je suis à fond éducation positive. Hein.
Tout ça. T'es pas un peu ghetto parfois ?
Ouais, je suis gay, ouais, carrément.
Alors, tu vois.
Si.
Donc t'es ghetto sans rire en fait. On l'a trouvé, il est là.
Alors qu'il se reconnaissait pas.
En vrai, j'aime pas trop les appellations, tout ça.
Non, mais vas-y, c'est quoi le truc où tu te rends compte qu'il y a le ghetto qui revient en toi ? Parce que j'ai un petit exemple, si ça peut t'inspirer.
Vas-y.
Une des vidéos qui m'a fait le plus rire, c'était un papa qui était devant le réfrigérateur et il y avait son enfant qui voulait à tout prix ouvrir le réfrigérateur et qui voulait sortir un énorme pack de lait. Et ça se voyait que si jamais il allait au bout du projet, le lait allait se répandre sur le sol, etc. Donc il y a son papa qui est là et qui gentiment, une fois, deux fois, non, non, tu peux pas, non, c'est pas comme ça, non, c'est pas pour maintenant. Non. Et puis au bout d'un moment, vas-y, c'est bon, il le prend comme ça, il le soulève, il fait, vas-y, c'est bon et tout. Genre, il en a marre, quoi. Il a dit, allez, flemme, c'est bon, la méthode Montessori, là, on va arrêter deux secondes les bêtises.
Non, mais c'est vrai que la répétition, ça rend ouf. Et ouais, je me verrais bien dans ce genre de phase-là. Mais moi, je les laisse tomber facilement. Mais vraiment, vas-y, tombe, y a pas de souci. Et des fois, bah, le truc.
Tant que c'est pas toi qui les pousse. Hein.
le dimanche, je suis là. Allez, midi pizza. Allez, pizza, c'est parti.
Mais bien sûr, mais heureusement, il faut manger des pizzas. Ah oui. Respectons les Italiens.
Non, mais c'est pas eux que t'arranges, là, c'est toi.
Bah oui, c'est tout le monde, en fait. On est tous dans le même.
C'est ça. La méthode ghetto-souris, c'est pour arranger les parents.
Ça arrange les parents.
Et on est tous là ensemble, on kiffe, tu kiffes, je kiffe. Allez, glace en plus.
Ils ont quel âge, tes enfants ?
6 ans et 16 mois.
Mais c'est une fille qui a 6 ans.
Une fille qui a 6 ans, ouais.
J'allais te demander, parce qu'il y avait aussi ce truc de les enfants, genre quand ils rentrent à la maison et qu'il y a eu bagarre ou qu'ils se sont fait taper, dans les vidéos, souvent, il y avait ce truc de dire la réaction des parents. Donc, le côté ghetto, ça va être de dire « t'as gagné ». Vous voyez, alors bon, Montessori c'est plutôt ouais, mais bon, la violence c'est pas forcément, il faut utiliser les mots, la parole, des messages clairs. Voilà,
mais
quoi.
Non, c'est pas ça, pour moi ça c'est plutôt normal aussi. Montessori ça sera en mode je sais pas, mais pour moi ça c'est plutôt normal.
Moi, je crois qu'il y a ton casque qui est trop fort pour sur ton micro, peut-être, ça fait un larcène.
Ouais.
Mais moi, j'avoue, je suis pas contre. Moi, j'aime pas la violence. Ça, c'est clair. Et moi, je le dis à mes enfants, ça sert à rien la violence, faut pas taper tout ça. Mais quand t'as de la violence en face de toi, je suis désolé, des fois, bah, faut répondre d'une certaine manière. Il y en a, Non, mais des fois, il faut y aller, quoi. C'est relou. En plus, ma fille, elle est trop mignonne avec les autres enfants et tout. Elle est là, elle aime. Même quand il y a des enfants qui sont embêtés, tout ça, elle est là, elle intervient et tout.
Elle va les défendre.
Ouais, c'est. Et quand elle vient, elle me dit, bah, on m'a embêté, je dis, bah. Il t'a poussé ? Bah, tu le repousses.
Ah, voilà, bah voilà, ghetto.
Bah oui.
Ghetto.
C'est pas ghetto non plus.
Voilà. C'est normal.
Voilà,
très beau sujet. Toi, t'as élevé ta fille comment, Cosette ? En mode ghetto ou en mode bienveillant ou en mode.
Moi, la cool. Je fais un truc, tu veux participer ? Ghetto, non, pas ghetto. Non,
mais ouais, pour moi, les, ghetto, non, c'est
les
à
trois
la cool.
Fois, les bah, trois attends, fois où attends, j'ai fait une. Cool. J'ai fait un acte de violence avec elle. On venait d'acheter des chaussures, vernis noir, tout beau. On rentre à la maison. Mademoiselle voulait ressortir avec ses chaussures pour aller au parc. J'ai dit non. Elle a commencé à se mettre par terre, à taper, à faire sa comédie. Je l'ai chopée, mise dans la baignoire, tout habillée, ses chaussures neuves.
Ah oui, tu m'as raconté ça.
J'ai ouvert
avec
l'eau.
Les chaussures.
Avec les chaussures, je m'en fous, c'est moi qui les ai payées.
Ah oui, c'est pas elle, c'est sûr.
Et donc j'ai ouvert l'eau, j'ai mis de l'eau tiède et je l'ai aspergée, trempée. J'ai dit, maintenant, tu veux sortir comme ça ? Non, c'est bon, je les enlève.
Bah oui.
Elle s'en souvient de cette phase ?
Je sais rien, peut-être, j'en sais rien.
Et les chaussures étaient foutues, évidemment.
Non,
chaque
non.
Fois qu'elle prend une douche, elle s'en souvient. Trop bêtisée.
Non, en fait, elle prend plus de bain à cause de ça. Elle prend que des douches, justement.
Non, un autre jour, pareil, je retrouvais une amie qui avait sa fille qui était dans la même classe que Charlotte. On mange et puis tout d'un coup, je vois Charlotte, elle était toute griffée sur le ventre. Elle me fait « Ouais, c'est Caroline qui m'a fait ça.
Ouais. »
Je fais « Pardon. Oui. » Donc, on appelle Caroline, on voit ça avec sa mère. Sa mère, elle déconne tout le temps, donc c'était bon. On voit ça avec elle et la gamine, elle fait « Non, c'est pas moi, c'est elle qui se les a fait. » Donc, au revoir Caroline, au revoir tout le monde, on paye, tu te casses, tu remontes à la maison. Bah, alors, comment ça s'est fait ça ? Elle n'a pas voulu le dire. Baignoire, aspergée. Elle ne m'a plus deux, jamais trois. Elle m'a plus jamais embêtée avec ça. Elle s'est plus jamais lacérée.
C'est elle qui l'avait fait.
C'est elle qui s'était fait de l'auto.
Oh, la baignoire.
Elle était propre. Mais après, ouais, bon. Quand moi, je vais
prendre...
Elle était propre. Ma fille était propre, la baignoire aussi. Ce qui fait que le dimanche, quand j'allais en loose dans la baignoire, j'avais pas mis un pied dedans que la gamine était déjà dedans.
Ah ouais. Oh là là.
Non, et puis un jour, j'ai mis une fessée. Elle était dans la baignoire. J'ai mis une tape sur ses fesses. Ouais. Mais j'avais oublié qu'un corps mouillé plus deuxième corps mouillé qui se tape, ça fait une marque. Donc, elle a eu ma main sur sa fesse marquée en beau tatouage rouge pendant à peu près une heure.
Ah ouais.
J'avais une heure, honte. Ça va.
Ouais, mais j'avais honte. J'avais très honte. Et mais toi, sinon, non, c'était...
Léonard, t'as été élevé comment? Plutôt ghetto ou
moi,
plutôt...
Je sais pas, j'ai été élevé avec mon père et ma mère. Donc, la moitié de ma vie avec ma mère et l'autre moitié... Enfin, avec les deux. Et je considère que j'ai été élevé dans un parfait équilibre.
Du coup, il y en avait un ghetto et l'autre souris.
Exactement. Des fois, il y avait des trucs ghetto souris. Du genre, là, j'ai une anecdote... Je me rappelle une fois, j'étais dans un parc, je devais avoir 15 ans, et un groupe de mecs qui ont essayé de me prendre ma veste, ils ont essayé de me racketter. Et j'avais réussi à m'évader et tout. Et là, j'appelle mon père en panique et je dis: oh papa, je viens de me faire attaquer. Et du coup, il a commencé à rigoler et toi, bah, oh, c'est trop bien, tu les as niqués. Et j'ai pas compris parce que ma mère, quand je lui ai dit ça, elle est en mode: ça va, comment tu vas? Elle
ouais,
était
la mère.
C'est différent. Donc,
là, t'avais deux sons de cloche vraiment.
Ah, ouais, c'était ça.
Mais t'as dit que t'as grandi en Allemagne.
Oui.
Et du coup, l'éducation, c'était. Il y a eu ça, ça a rejailli dans ton éducation. Il y a eu une influence
allemande
ou...
tu veux dire?
Ouais.
Bon, je pense pas. Hein. Je pense que. Ouais,
ses parents sont pas allemands.
Oui,
pas allemand.
C'est justement pour ça que je demande si.
Ils sont allemands, tes parents?
Ma mère est, mon père est allemand.
Ah oui, d'accord, ok.
Ouais, je suis né là-bas.
Ok.
Mais.
Ah, du coup, t'es allemand.
Et l'éducation à l'allemande, c'était ghetto. Ah ouais, j'aurais pas pensé.
Ouais, je savais pas que t'étais né là-bas. Je savais que t'avais vécu longtemps là-bas, mais j'avais pas compris que t'étais né là-bas. Ah, t'es un allemand en fait.
Bah oui.
Et t'as la nationalité française?
Ouais.
Okay. Double nationalité allemande et française.
Ouais. Mais t'es né en Allemagne.
Je suis né en Allemagne.
Donc t'es un immigré.
En plus, je l'ai pas eu directement, la nationalité française. Mais pas du tout. Je suis pas un immigré.
Si. Bah si, t'as immigré en France, je suis désolé.
Comme un oiseau.
Mais non, c'est ta mère est française.
Ma mère est française et mon père allemand.
Ouais, mais t'es né en Allemagne.
Oui.
Voilà. Oh, pas né mais en faut France. Lui
oh, ça y est. Voilà. Mais bref, il n'y a pas eu d'influence spéciale.
C'est un OQTF.
voilà. Ben, c'est vrai que s'il y a un certain parti politique qui passe, je crois qu'ils n'aiment pas les doubles nationalités.
Ouais,
hein,
ouais,
de choisir.
C'est vrai
hein. Que...
Oui, ouais. C'est vrai.
Tu c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop.
Ah, moi, j'aime pas ça non plus. Moi, je vais me casser.
Bon, après, entre toi, tu es franco-allemand, ouais. Moi, je suis franco-algérienne. Il y a certaines doubles nationalités qui posent
oui,
plus
voilà,
problème que d'autres.
Il y en a qui n'aiment pas trop.
Toi, tu es la chaîne Arte et toi, tu es Al Jazeera.
Voilà, exactement.
Alors
Al Jazeera,
ok.
Al Jazeera, c'est pas.
On va retravailler.
Arte, c'est une coalition franco-allemande. Al Jazeera, c'est pas.
Je me mets dans le personnage.
Non, mais en plus, Al Jazeera, Qatar, c'est pas vraiment. D'un point de vue géographique, on va retravailler, Loïc. On va bosser ça pour dans deux semaines.
C'est ton papa qui est algérien, ta maman?
Les deux sont algériens.
Ah, les deux sont algériens, d'accord.
Mais ils ont accouché en France.
Ils ont accouché. Alors, ma mère a accouché, mon père, il n'a pas fait grand-chose.
Ouais. Il a fait comme d'habitude.
Voilà, il a...
C'était un papa des années...
Déjà, il était là, sur là. C'était déjà pas mal.
Qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis pas bon.
Parce que tu disais que tu étais franco-algérienne, c'est pour
oui.
ça.
Parce que j'ai les deux nationalités.
Ah oui, d'accord, ok.
Voilà.
Moi, je trouve ça cool, la double nationalité.
Oui.
Ah, oh, bah, c'est très cool.
Ouais.
Triple, quoi.
Moi, je suis...
Encore mieux.
Mais ouais, voilà.
Française terrienne.
Max.
Génial.
Moi, je pense qu'on devrait tous avoir un passeport international et voyager où on veut.
Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de guerre, il y a assez de ressources pour tout le monde. Ça serait génial.
Bah en vrai, il y a assez de ressources pour tout le monde, mais bon. Après, ça, c'est une autre histoire.
Il faut partager.
C'était l'instant Miss France de cette émission.
Oui, votez pour moi parce que je suis pour la paix dans le monde. Ah, mais moi, ça m'a toujours rendu ouf, les frontières. Désolé, je pense tout haut.
Ouais, on voit ça.
Je ne sais même pas comment ils les font pour les détecter, les frontières.
Oui, mais là, si on enlève les frontières, là, ça veut dire que si tu as un jardin, si tu n'as plus de jardin, c'est une frontière, ton jardin.
Ouais, le bien commun. Ah, je suis plutôt communiste alors, apparemment.
Tout appartient à tout le monde. Bah voyons.
Et toi, Catherine, plutôt éducation ghetto ou sorry? Quand t'étais petite.
Nous, c'était permissif chez nous.
Ouais.
Je sais pas comment ça s'appelle, du coup.
Du coup,
c'était cool.
Le frigo ouvert tous les dimanches.
Bon, c'était pas open bar non plus, hein. Mais
tu pouvais prendre la bière qu'il y avait dans le frigo.
Non, mais bon, je veux dire, on n'a jamais été, on n'a jamais interdit de fumer, on n'a jamais interdit de boire ou quoi que ce soit. C'était cool à la maison.
La bonne franquette.
Okay. Ouais, c'était très cool.
Et tu fumes pas aujourd'hui?
Non, aucun nous.
T'as fumé?
Ah oh ben oui.
T'as pas dit que tu fumais le cigare?
Si, si, j'ai fumé le cigare. Ben mon père...
Ah oui, mais, je me rappelle une fois.
Mon père, par exemple, il fumait la pipe. Bon, ben j'avais quoi, 12-13 ans, il m'a fait tirer une taf de... Ouais. Voilà, par exemple. Ou il prenait un cigare.
Sa
voilà.
Première pipe fort, à 13 ans, 13 ans, quand même.
Donc
c'est pas un peu fort, la pipe?
C'est... Bon, non, il prenait du tabac hollandais, c'était pas...
C'est doux.
Amsterdamer.
T'es sûr que c'était du tabac en Hollande?
Non, parce que je me posais la question, si la première fois que tu testes, est-ce que genre, ça te dégoûte plus qu'une cigarette? Moi, la première cigarette
j'étais
que
jeune,
j'ai fumée,
donc,
ça m'a dégoûté
un certain temps,
à vie.
Ça, c'est, le vin, c'est pareil, j'avais goûté du vin, on avait quoi?
Et maintenant, tu me trouves dans la rue, je suis une polstre.
Mais non, justement. Mais justement.
Toi, quand t'étais petite, le vin, c'est... Parce qu'à une époque, le vin, c'était à la cantine. Je sais pas, c'est quelle époque.
Oui, moi, je l'ai eu à la cantine, le vin.
Toi, tu l'as eu à la cantine?
Je me suis pris une biture à la
cantine.
Non.
C'est ouf, ça, quand même.
Non, mais je veux dire, bon, tu parles de mon éducation, c'était cool à la maison, et c'est pour ça, justement, que on n'a jamais ni bu ni fumé.
Moi,
j'avais une copine qui fumait. Elle avait interdiction de fumer chez elle. Elle est venue fumer chez moi.
Ouais.
Et quand mes parents rentraient, dit tiens, Monique est passée. Et ils m'ont jamais dit tiens, t'as fumé.
Oui. Ok, d'accord.
Tiens, Monique est venue. Je
et
dis,
toi, Loïc?
Elle est venue.
Moi, c'était ghetto. Hein.
C'était ghetto, souris.
C'était ghetto. Hein. Ouais, ghetto.
Okay. Ah, ghetto.
Ouais, ghetto.
Mais attends, tes parents quand même savaient comment tu t'appelles?
Oui, en tout cas un des deux.
Un des deux au moins.
Ouais, plutôt ghetto. Et moi, moi, je suis entre les deux du coup. Après, il y a eu plus ghetto que moi parce que je suis le dernier. Du coup, ceux d'avant étaient...
Ils ont plus morflé.
Ghetto favelas, tu vois. Après, il y a eu des niveaux.
Ouais, pareil pour moi.
Et après, il y a eu ghetto 13e arrondissement.
Ouais, voilà. Moi, je suis ghetto 13e. Ça va, c'est plutôt cool.
Non, moi, je sais qu'à la maison, bon, on n'avait pas le droit de... Non, il fallait respecter les règles.
Ouais.
Et comme j'étais l'aînée, je me suis pris des coups de pied au cul, des claques et tout, tranquille. Les autres, ils en ont profité.
Ça. Ouais, toujours les plus grands.
Ah ouais.
Non, mais nous, il n'y avait pas les punitions comme ça.
Mais par contre, j'ai appris plein de choses. J'ai eu le droit à... J'avais le droit de m'enfermer dans le labo photo, j'avais le droit de faire de la céramique, de la poterie, de la menuiserie, j'avais le droit de tout.
Ah, c'est cool ça.
Ouais.
Bah, du coup, tu respectais les règles, mais en échange, c'était...
Non, ça faisait partie de l'éducation, des activités. Si t'aimais, tu continuais, si t'aimais pas, t'étais pas forcé de le faire.
Ah, mais c'est plutôt cool.
Mais par contre, je sais que je piquais les lampes électriques pour bouquiner sous mon lit ou sous les draps. Ah ouais. 9h, c'était instinction des feux. Mais moi, non.
Instinction.
Ouais.
Instinction. Instinction.
Et moi, je lisais beaucoup. Donc, je piquais les livres dans la bibliothèque et je lisais sous les draps.
Ça, c'est excellent. Je vois bien ton fils, du coup, avec la petite lampe.
Mais oui. Personne n'a vu ma lampe.
Il faisait
non,
ça.
Non.
Bah sur ce, vous savez que le temps passe vite. Hein.
Ah,
on est
ouais,
à la fin
déjà.
De cette émission. Je vois qu'il est 30. Ça bon, sur mon téléphone, il est 29.
Moi aussi. Et là, il est 30.
Mais c'est l'heure de se quitter. Merci Sophia pour la before. Je vais réécouter ça fort sur le chemin du retour. Merci l'équipe d'avoir participé, d'avoir débattu. Merci Léonard à la technique et à Abou, en rédacteur en chef de la radio. Et j'en profite pour faire un coucou à Daniel. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait de coucou dans Ça dit quoi. N'hésitez pas à partager les émissions, écouter, laisser un petit avis. Franchement, ça peut nous booster un peu, nous faire plaisir. Yes. Des étoiles ou un petit avis. Oui, aujourd'hui, c'était cool. Ça dit quoi ? Des trucs comme ça.
Si vous avez une idée de thème pour l'émission.
Exactement. Envoyez vos thèmes, envoyez vos idées de thèmes. Il n'y a pas de souci. Et restez branchés sur Mon Paris FM parce que ce soir, à 21h, sera diffusé un nouvel épisode de On en parle sans tabou. Et oui, avec le docteur Fanny Boer-Motti, je reçois Audrey qui nous parle de dépression post-partum. Hyper intéressant, hyper émouvant.
Super sujet.
Du coup, restez branchés. Et on se voit dans
deux semaines.
Deux semaines.
Salut.
Yes.
Au revoir.
Ciao.